fait, j'avais pensé intervenir ici à 16h. Je ne pouvais pas rester très longtemps avec vous, d'autant que le sujet est un sujet très, très important. Face au chaos, le thème du décèlement, ce qui m'avait été demandé, puisque moi-même je ne suis pas du tout spécialiste et criminologue, c'est dans le fond pour déceler, comprendre le retour des patients. Et la perspective est le gros mot qui était employé, mais qui est un gros mot qui mérite attention, ce thème du sociétal. C'est bien cela que vous m'aviez demandé. Le sociétal, dans le fond, comme culture, c'est un terme qui est employé sans, en général sans qu'on ne sache pas très bien ce qu'on veut en dire. Dans le fond, c'est ce qui, justement, n'est pas simplement le social, tel qu'il s'est défini au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est-à-dire, dans le fond, un être ensemble parfaitement rationnel. Et je crois que, de diverses manières, et déjà ce que j'ai entendu tout à l'heure, et puisque ce que nous savons de plus en plus, c'est que, justement, l'être ensemble devient de moins en moins rationnel. Et que donc, il est important de repérer, en quelque sorte, quels en sont les substrats. Décèlement, encore, pour rester au niveau sémantique, c'est tout d'abord comprendre, dans le fond, ce qui est là, et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit. Je le dis en termes weberiens, ne pas se contenter, ce qui est notre péché mignon, de raisonner à partir d'une logique du devoir-être, mais d'abord constater. Et je me souviens de certains livres de Xavier Hofer ou d'Alain Bauer citant Heidegger, et Heidegger rappelle qu'à l'encontre de ce qui est notre épistémologie, sans que l'on y fasse bien attention, c'est-à-dire une vérité qui vient du haut, l'aletheia, c'est un dévoilement, autre manière de dire le décèlement, c'est-à-dire ce qui vient du bas. Vous dire, bref, et je ne vais pas plus loin, nous sommes habitués à déduire des choses. Moi, je pense qu'il est important d'avoir une procédure inductive, voir ce qui vient du bas, voir même, pour rester dans cette figure logique, des éléments qui sont abductifs, c'est-à-dire qui, dans le fond, font écart par rapport à ce qui est établi. Donc, la déduction est notre manière de penser. Elle a donné des belles choses. À mon sens, elle ne donnera plus grand-chose. Et de ce point de vue, et c'est cela, dans le fond, le sociétal, ben, il faut repérer quelles sont les racines des comportements. La culture, avant tout, c'est cela. La culture, ce n'est pas les grandes œuvres de la culture. C'est la sédimentation de toute une série de petites choses qui, à bien des égards, en bout de course, vont déterminer, dans le vrai sens du terme, vont limiter les modes de comportement. Alors, de ce point de vue, c'est vrai que c'est important de voir une exploration. Il faut savoir ce que l'on cherche. Et en entendant tout à l'heure Xavier Raufer, je pense en effet qu'il est plus important de poser des questions que de donner des réponses. Et d'une certaine manière, nous croulons, et peut-être il y a trop de réponses, et il faut savoir poser des questions. Je vais les poser. En rappelant tout d'abord un écart, et en faisant ensuite rapidement, sinon une généalogie complète, du moins essayer d'en donner quelques éléments. Tout d'abord un écart, dans le fond, entre un décalage entre la pensée savante, censément la nôtre, qui s'est opposée contre la doxa, contre l'opinion commune, et qui, dans le fond, est devenue une doxa. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'on appelle le conformisme ou le politiquement correct, le correctness sous ses diverses modulations, et je ne veux pas peiner monsieur l'amiral qui parlait juste avant moi, mais je considère que le rapport qu'il a cité, celui de la Mémilude, est un exemple achevé de ce politiquement correct ou de ce moralement correct qui ne résout rien et qui se contente d'enfoncer des portes ouvertes. Et dans le fond, c'est un peu au travers de divers. Ce rapport en est un bon élément, mais ce qui est, je dirais, le discours convenu de l'intelligentsia sous ses diverses modulations, que ce soit article journalistique, ouvrage théorique ou position politique, pour moi, s'inscrivent actuellement massivement dans ce conformisme de pensée, qui est, je n'ai pas le temps de le développer, mais je l'ai indiqué incidemment tout à l'heure, qui est fondamentalement moraliste. Et dans le fond, s'il y a quelque chose dont il convient de se purger, c'est de la morale. La morale, j'ai bien dit, dans cette perspective bébérienne, logique du devoir-être. Avant tout autre contenu, quel qu'il soit, c'est une structure. À l'opposé de cette correctness ou ces diverses modulations, que ce soit en termes géopolitiques ou en termes du quotidien, moi je suis plutôt un sociologue du quotidien, même tout à fait un sociologue du quotidien, c'est qu'il y a curieusement, actuellement et empiriquement, un retour justement de la violence, des bruits, de la fureur. La publicité en est particulièrement une expression particulièrement évidente. Le cinéma, sous ses diverses modulations, ne parle que d'enfer sorcière. Le théâtre repose sur le sang, le sperme, les performances. La chanson techno ou gothique met en scène toujours ce qui, justement, avait été, dans ce moralisme ambiant, écarté. Il revient. Et je pense que, en ce sens, je vous rends attentif à ce premier aspect des choses, il y a une fascination pour l'esprit rebelle, il y a une fascination pour l'ensauvagement. Je dis bien, sous une forme majuscule, sous une forme minuscule, hein, que ce soit encore une fois en termes de géopolitique ou en termes de vie quotidienne. Alors, pourquoi cet écart? Rapidement, j'ai dit une généalogie. Qu'est notre cerveau reptilien? D'où vient cet écart? Je donnerai deux caractéristiques et demie de ce cerveau reptilien. Je dis bien le nôtre. Cette tradition, dans le fond, que j'allais dire judéo-chrétienne, je pense qu'il vaut mieux dire sémitique en son sens large. Tout d'abord, et peut-être est-ce là, dans le fond, ça c'est banal ce que je vais dire, mais comme toute banalité, il est important de le rappeler, le fait que dans le fond, notre manière de penser repose sur le grand fantasme de l'un, le monothéisme. Nietzsche disait monothéisme, monoïdéisme, monotonothéisme. Et qu'on le veuille ou non, sur la longue durée, on a considéré, dans le fond, que ce qui était prévalent, c'était cette simple conception de l'un. Je dirais, en son sens ésotérique et en son sens exotérique, le chiffre 1 a été la marque de notre tradition culturelle. C'est pour ça que je dis, finalement, notre cerveau reptilien. Celui qui fut, à mon sens, le fondateur de la modernité, saint Augustin, rappelle « la raison humaine conduit à l'unité ». Et, quasiment 2000 ans plus tard, quand Auguste Comte veut définir ce qu'est la société, ce qu'est la sociologie qui est censée en rendre compte, il dit « reductio ad unum », toute chose est réduite à l'un, que ce soit, pour une fois, dans l'ordre de l'individu, de l'État-nation, des institutions, ou toute expression de cet ordre. Voilà le premier point. Le chiffre 1, sous ses diverses modulations, exception culturelle, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, en d'autres lieux ou dans d'autres cultures. La deuxième caractéristique, je dis caractéristique un peu à la manière durkheimienne, les caractères essentiels, hein, comme des empreintes, comme un caractère, c'est dans le fond une empreinte qui va marquer un individu, et bien après tout, pourquoi n'y aurait-il pas des caractères essentiels caractérisant, encore une fois, une société? La deuxième, c'est que le mal n'a pas d'existence en soi. Là encore, je cite saint Augustin, le mal n'est qu'une privation bonie. C'est-à-dire, c'est une privation du bien. C'est-à-dire que, en fond, il n'y a pas de vraie existence, et dès lors, il est parfaitement dépassable. Et je dirais qu'on a là les deux grandes caractéristiques, et c'est pour ça que j'ai cité Augustin, je vous ai dit pourquoi. À mon sens, il y a d'abord ce grand fantasme de l'un, et deuxièmement, le fait que, dans le fond, le mal n'est qu'un creux. Quelque chose qui, à bien des égards, pourra être dépassé. Et le troisième élément de cette tradition culturelle, il est en congruence avec ce que je viens d'indiquer, c'est cette manière dialectique que nous avons de procéder, toute chose va arriver quelque part à une synthèse. Et nous faisons de la dialectique, un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, on peut thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire qu'il y a cette grande idée d'ailleurs qui va culminer dans la philosophie hegelienne, qui est l'idée du dépassement. Il y a possiblement un dépassement, bien évidemment, de ce mal que je viens ici d'indiquer et qui n'est qu'une imperfection par opposition à ce que doit être la perfection. Voilà un peu le schéma, hein, pour dire bref, et je dis bien qui par après va se décliner de diverses manières, que ce soit dans la constitution du pivot individuel, qui est indivisible, que ce soit par après, sur 2000 ans de temps, dans la constitution d'un État-nation, la République une et indivisible en étant l'apogée, ou que ce soit dans des institutions qui, dans le fond, gèrent cet être ensemble d'une manière unique. Et là, j'ai dit Auguste Comte, mais les travaux de Michel Foucault, de ce point de vue, sont intéressants. Un mot résumerait tout ce que je viens de dire. Nous vivons sur une conception dramatique du monde. L'idée du drame, je ferai une distinction dans un instant, l'idée du drame, drao, dramein en grec, c'est ce qui s'inscrit dans une évolution et qui trouve une solution. Il y a de la solution, il y a de la résolution. Voilà ce qu'est le grand optimisme occidental, voilà ce qu'est le grand optimisme de la perspective dramatique du monde. Il y a un bien, on l'atteindra, ce bien c'est l'unité, on a un instrument qui est la dialectique. Alors c'est en ce sens que je disais, c'est ce qui a caractérisé dans le fond l'occidentalisation. Ce qui s'achève à bien des égards, si je donne deux dates paradigmatiques, 1868 l'ère Meiji au Japon, 1888 quand le Brésil met sur ses bannières le mot d'ordre d'Auguste Comte, ordre et progrès, on a là le spectre dans le fond de la contamination de ces grandes valeurs occidentales au bout des baïonnettes des soldats, dans les cales des marchands ou avec les bibles des missionnaires. Conception, j'ai dit, dramatique. À mon sens, il y a, et ça c'est de l'ordre du constat, il y a une saturation de ce modèle-là. Je dis bien empiriquement, on va constater, et dans le fond ce à quoi vous êtes ici confrontés dans vos études, ce à quoi nous sommes sociologiquement nous-mêmes confrontés dans l'observation de la vie quotidienne, revient exactement aux mêmes choses. Je dirais d'un mot, là encore, bien sûr, sous forme comme cela d'indices, de symptômes que l'on va repérer et sur lesquels nous sommes, qui est trop tôt peut-être pour faire la synthèse, en tout cas qu'il est important de questionner, ça on voit, comme on le rappelait tout à l'heure avant la réponse, et bien, moi pour ma part, j'ai rendu attentif au fait que, empiriquement, il n'y a plus ce chiffre 1, mais qu'il y a un polythéisme des valeurs, si je reprends l'expression weberienne. Polythéisme des valeurs, pour le meilleur ou pour le pire, toute chose qui fait que, à bien des égards, ce n'est plus, en quelque sorte, une seule valeur qui va prévaloir, mais une mosaïque, en quelque sorte, de valeurs très disparates. Autant l'homogénéisation avait été la grande marque de la modernité, je n'ai pas ici le Sérigné, je ne peux pas le justifier dans les quelques minutes qui me restent, mais à mon sens, le polythéisme est la marque de la postmodernité. Et c'est frappant, c'est curieux, je le dis en incidente, de voir comment il est difficile, voire impossible, d'avoir un débat sur la postmodernité actuellement, en France en particulier, pour la raison qui, à mon avis, est là. Nous savons penser le chiffre 1, on ne sait pas penser le pluriel. On ne sait pas penser ce thème du polythéisme où il puisse y avoir une forme de cohérence, où on puisse penser, à bien des égards, si je reprends l'exemple que je donnais il y a un instant de la République, que la res publica puisse être, à bien des égards, l'ajustement de choses tout à fait différentes. Mais il y a là une incapacité à penser ce polythéisme. Deuxième élément, dès lors, incapacité à penser le retour d'un retour à quel niveau, là la question reste posée, d'un certain nombre d'archaïsmes. Je dis bien archaïsme dans le sens simple du terme, non pas ce qui est dépassé, ou plutôt non pas ce que nous avions cru dépasser dans le grand progressisme, mais archaïsme dans ce qui est arché, fondamental, premier. Et de ce point de vue, il faudrait trouver bien évidemment des expressions pour rendre compte de ça, il y en a certains, enfin quelque chose qui n'est pas une simple régression, mais qui est la régrédience, le retour spiralesque de valeurs que l'on avait cru dépasser. Moi, j'ai rendu attentif personnellement depuis une trentaine d'années à certaines de ces valeurs, le tribalisme, qu'on le veuille ou non, et il ne sert à rien de stigmatiser le communautarisme, il y a là actuellement le retour des tribus, dans quelques domaines que ce soit. Le retour des nomades, non plus l'assignation à résidence dans une identité sexuelle, professionnelle ou idéologique, mais qu'on le veuille ou non, un virevoltement de ces nomades. Et bien évidemment, là aussi, quelque chose, alors là, reste à voir, moi j'ai dit valeur dionysiaque, c'est-à-dire, et c'est cela l'émotion, c'est-à-dire le retour de ces valeurs animales que l'on avait cru, là encore, dans le progressisme bené, dépassé. Et je disais allusivement tout à l'heure la publicité, le cinéma, le théâtre, les performances, la chanson, la vie quotidienne, eh bien je dirais que c'est, même s'il n'y a pas conscience des protagonistes, bien, il y a une accentuation de cette animalité. Dans l'animal humain, nous avions mis l'accent sur l'humain. Et on voit revenir l'animal, encore une fois, qui est là, qu'on le veuille ou non. Et je dirais que c'est cette perspective-là qui est, bien évidemment, qui va restaurer, bien évidemment, l'ambiance émotionnelle. Et je crois qu'on ne pourra plus faire par l'économie de cette émotion. Je rappelle juste que le mot émotionnel, qui est employé à tire-larigot un peu partout actuellement, la plupart du temps, en faux sens, voire en contresens, ou en contresens, voire en faux sens, est un néologisme, bien sûr, qui n'existe pas dans nos dictionnaires, mais qui est un néologisme qui a été proposé par Weber dans la dernière partie d'Économie et Société, pour décrire non pas un caractère psychologique et individuel d'être émotif ou d'être affectif, mais pour décrire une ambiance dans laquelle baignait la Gemeinde, la Gemeinschaft, donc la communauté. Et qu'il y avait là quelque chose qui était, je dirais, ambiental. Donc non pas quelque chose qui renvoie à cet individu maître de lui, contractant avec d'autres individus maîtres de lui, avec lesquels on pouvait bien évidemment rentrer également en dialogue, mais au contraire, et c'est cela pour moi l'ambiance émotionnelle, quelque chose qui là n'est pas négociable, dans lequel il n'y a pas de contrat aussi. Éventuellement, et ce n'est pas neutre, ce n'est pas forcément inintéressant d'ailleurs, que l'on voit ressurgir ce terme, je ne suis pas sûr que ceux qui l'emploient en soient bien conscients, il n'y a plus du contrat, il y a possiblement, éventuellement, du pacte. Mais l'idée du pacte, bien évidemment, est dans le fond le choc de deux tribus, le choc de deux émotions, le choc d'éléments qui sont, à bien des égards, pas simplement comptables, pas simplement comptabilisables, quelque chose qui ne rentre pas dans la dimension rationnelle que nous connaissons. Et c'est cela que j'appellerais, moi, par opposition à la perspective dramatique qui a prévalu durant la modernité, le retour du sentiment tragique de l'existence. L'idée du j'ai dit ce qu'était le drame. Le tragique, si je fais référence philosophique, c'est ce qui est aporique. Il n'y a pas de solution. Donc il y a tout au plus un processus d'accommodement, d'accommodation entre des émotions diverses, mais il n'y a pas véritablement de solution. Et je pense que c'est cela qui va caractériser, de mon point de vue, le sociétal actuellement. C'est-à-dire, savoir accepter, et c'est cela la vraie question, une fois il n'y a pas de réponse dans ce que je dis, mais la vraie question c'est celle-ci, c'est-à-dire savoir que la grande perspective dramatique est saturée. Que ce soit en termes international ou en termes national, on ne peut plus contracter. Mais retour de cette dimension émotionnelle, et c'est ce qui me paraît être là actuellement le substrat, l'espèce de nappe phréatique sur lequel est en train de s'ériger la postmodernité. Voilà en quelque sorte ce que je voulais faire à vous.
Oui, bien sûr. Deux,
voilà. J'aimerais poser la première pour vous demander si le tableau vous fait.